aujourd'hui, donc, j'ai demandé donc à Damien Simon, qui est donc le coordinateur du Bon Accueil à Rennes, qui ont une programmation qui est spécialisée sur le centre d'art, de venir nous parler de projets qui étaient proches de ce que moi j'envisageais ici. Donc c'était pour moi un peu les sources d'inspiration qu'il va y avoir pour cette résidence. Et à Michael Selam aussi de nous présenter un projet que je trouvais intéressant et qui, pour le coup, m'inspire aussi pas mal dans ce que je voudrais faire ici. J'ai aussi choisi de vous passer deux vidéos. Donc une première vidéo qui fait un peu moins de 15 minutes de Doug Aitken, qui est une vidéo à la fois très kitsch et très agréable, parce que c'est une espèce de dérive urbaine à la tombée de la nuit d'un danseur. Donc ça, c'est la première vidéo qu'on va vous passer. Donc ensuite, Damien va vous faire une petite introduction. Michael va vous parler de son projet qu'il avait réalisé à Nantes. Et ensuite, on va passer quelques extraits, environ une demi-heure, d'un film sur Roman Singer. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste suisse, mais c'est un film assez exceptionnel et très très drôle. Donc voilà.
Donc bonsoir, je suis Damien Simon, je m'occupe d'un lieu qui s'appelle le Bon Accueil à Rennes. On est spécialisé dans ce qu'on appelle le Sundart. C'est un terme qu'on entend de plus en plus ces dernières années, même c'est assez récurrent. On parle beaucoup d'artistes sonores, c'est pas une forme d'art qui est tout à fait nouvelle, mais qui s'est beaucoup développée. Donc Sundart, c'est les artistes qui utilisent le son comme médium préféré. Et c'est une évolution qui s'est faite au fur et à mesure où le son est arrivé dans le musée, quand même, les galeries étaient plutôt des lieux silencieux, et avec la vidéo, quand ça arrivait le son également, mais qui était là... une composante de la vidéo, et puis peu à peu le son s'est affranchi des autres médiums. Les artistes ont vraiment commencé à utiliser le son comme matériau, au même titre que la lumière artificielle est utilisée de manière sculpturale. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de... Donc il y a eu, par exemple, à Paris, Expo Sonic Process, il y a quelques années, qui était dédié quand même à beaucoup d'artistes sonores. La Biennale de Lyon, dernièrement, la dernière Biennale de Lyon, il y avait Notre Musique, où il y avait beaucoup d'artistes sonores. Et il y a également, il y a un corpus théorique qui commence à se construire autour de cette pratique qui est quand même... Donc c'est plutôt des gens qui viennent des arts plastiques, mais c'est des gens qui viennent des musiques électroniques qui se sont mis à travailler avec les sons. D'une part, les gens qui viennent des musiques électroniques en fait se sont aperçus que la forme du concert convenait pas forcément toujours pour présenter ce type de travaux où vraiment, on va voir un concert, et quand on va voir un concert de musique électronique, s'il n'y a pas de support vidéo derrière, en fait, au bout du compte, on va rien voir. On va voir quelqu'un qui est derrière avec un ordinateur, un clavier, qui est quasiment la même situation qu'un concert de piano, au bout du compte, c'est quelqu'un qui tapote sur un clavier aussi. Et du coup, c'est là qu'on s'aperçoit, avec cette formule, on va voir un concert, on s'aperçoit qu'on allait écouter des concerts et que le dispositif de la salle de concert convenait pas forcément à ces productions, ni le temps du concert, ni l'attention qu'il fallait pour ce type de musique. Plus que la salle de concert est quand même un dispositif technique, c'est des salles qu'on... qu'on essaie d'avoir une acoustique neutre, même si c'est très dur d'avoir une acoustique neutre. Les artistes ont commencé à s'intéresser aussi à, effectivement, le son se diffuse dans l'espace. Il y a des espaces réverbérants, chaque espace a des caractéristiques propres. Donc, ils sont de plus en plus intéressés à construire ce qu'on appelle les architectures sonores, donc dans l'espace, en injectant des sons. On peut soit révéler l'architecture elle-même, soit construire une architecture au sein d'un espace. Alors, il y a un exemple très simple, c'est le supermarché avec la musique ambiante, la musique de fond. C'est des musiques qui sont très pensées en fait, c'est pas quelque chose qui est fait au hasard. C'est l'héritage de ce qu'on appelle la Musac, qui était une compagnie qui s'est mise à diffuser de la musique via les câbles du téléphone, parce que le téléphone, dans ses débuts, il y avait ce qu'on appelait le théâtre au fond par exemple, servait à diffuser la musique. Et c'est beaucoup plus tard qu'on s'est mis à diffuser avec la radio, des programmes radio, puisque la radio inventée par Marconi. Était essentiellement usage maritime pour échanger entre navires. Et c'est qu'en 1922, donc près de 30 ans après l'invention de la radio, qu'on s'est mis à utiliser la radio pour diffuser des programmes. Et il y avait une première expérience qui a été faite en 22 aux États-Unis, où on s'est dit, on va essayer de diffuser un programme, c'était un match de boxe qui était retransmis par la radio. Ils n'étaient pas du tout sûrs du résultat ou du compte. On s'est dit, les gens jamais ils iront écouter une radio pour un match de boxe. Alors qu'à heure régulière, les compagnies de téléphone proposaient des programmes radio qu'on pouvait écouter, des programmes, j'ai fait l'erreur, des programmes qui diffusaient. Et donc, sur les arsenaux, il y a tout un discours autour effectivement de l'espace, de la spatialisation, qui est un héritage de la musique concrète et des expériences en musique électronique aussi dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mais qui a un discours un petit peu dominant, comme si voilà, l'artiste sonore rejouait un petit peu ce qui a été fait dans les années dans les 60 avec l'art minimal, qui s'est beaucoup intéressé au. Justement, ces relations à l'espace, à la phénoménologie de la perception, qui est un texte qui a été traduit, alors, si je me dis, 59 ou 61, je ne suis plus sûr, en anglais. Et c'est un texte qui a une réception immédiate auprès des artistes, dès sa traduction. Et notamment avec ce fameux cube, alors non pas la galerie comme un cube, mais le cube qui est utilisé par Merleau-Ponty, où un cube, on l'appréhende, on peut deviner, on voit quelques arêtes d'un cube et on va deviner là, ce qui se trouve derrière le cube. Et du coup, avec les arts sonores, on s'est mis à s'intéresser justement à des espaces qu'on ne voyait pas forcément, des espaces qu'on pouvait modifier en injectant des sons. Par exemple, des études de psychologues. Si on projette une image rouge et qu'on injecte dans la salle des fréquences très aiguës, on aura une sensation de rouge plus clair. Tandis que si le même rouge avec des sons très graves, on aura l'impression qu'il sera dans une tonalité plus foncée. Mais je reviendrai sur les mécanismes de perception, tout ce qui est synesthésie. Et donc, nous, on travaille avec ces artistes, mais voilà, ce discours qui est assez récurrent, aussi bien dans les publications françaises et beaucoup de publications anglo-saxonnes, les artistes sonores ne s'intéressent pas que à l'espace. Du coup, je vais vous présenter quelques artistes qui travaillent avec le son et souvent la lumière, dont cet artiste. Alors, je vais vous passer la vidéo et puis je vais vous. Donc, ce qu'on a, je vais vous diffuser la suite après. Ce qu'on a entendu, c'est un artiste qui s'appelle Valentin Ferret qui travaille avec des ampoules à économie d'énergie. Et il s'avère que ces ampoules dégagent des flux électromagnétiques très, très puissants, bien supérieurs à ceux dégagés par les autres types d'ampoules. Et donc, il s'est mis à essayer en accordant des radios, à capter ces champs électromagnétiques. Ce qui est intéressant autour de ce travail, c'est qu'au bout du compte, cette sphère éthérée, elle est partout, parce qu'il y a beaucoup de choses, tout est sans fil quasiment, et on est traversé en permanence par des ondes diverses et variées, un peu comme si c'était les fantômes modernes de la technologie. Ce qui est très intéressant, c'est que l'histoire de l'invention des technologies de communication à distance est très lié à l'histoire du spiritisme et de la croyance en un autre monde. Alors, un peu Edison, l'inventeur du phonographe, quand il a inventé le phonographe, donc le phonographe, à la différence du gramophone, un phonographe c'est des cylindres, et le phonographe gravait, tandis que le gramophone reproduisait seulement les sons, et c'était sur disque. Et donc quand il a inventé le phonographe, la première idée c'était de conserver la voix des gens qui allaient mourir pour faire une sorte de en souvenir. Et donc c'était disque, alors c'était le projet de conserver pour l'éternité la voix des défunts. Donc c'était juste un projet, puisque quand il a mis au point sa première machine, on pouvait effectivement enregistrer, mais le fait de jouer le cylindre entraînait quasiment la destruction ou partielle ou totale. Mais c'était déjà le projet qui était en germe. Et Edison lui-même s'est fendu de plusieurs théories sur l'outre-monde. Et notamment, il pensait que quand on mourait, comme d'autres à l'époque, à la fin du 19e, au bout du compte, il y a une partie, donc cette partie spirituelle, était pas totalement immatérielle. C'est une sorte de ce qu'ils appellent une matière imparticulée, donc une sorte de matière extrêmement subtile. Et qu'avec au moyen de dispositifs techniques d'amplification, d'enregistrement, on pouvait entendre et rentrer en contact avec ces matières en particulier. Et chaque nouvelle invention, la radio aussi, Marconi pensait que les morts, au bout du compte, étaient les esprits des morts circulaient dans l'atmosphère, et qu'avec la radio, on pouvait rentrer en contact avec ces morts. Il pensait même que ces esprits en particulier restaient bloqués dans l'atmosphère, et il avait pour projet de entendre la voix du Christ. C'est assez étonnant, parce qu'on imagine que justement l'avancée technique et le 19e siècle, le siècle du positivisme et du rationalisme, on n'aurait pas ces discours. Ces discours ont fleuri avec le positivisme, parce que le positivisme en France, d'une part, a remis les cimetières tels qu'on les connaît dans les villes. C'est les cimetières républicains, c'est pas du tout l'Église catholique qui a mis les cimetières au centre des villes, c'est la République, parce qu'il disait qu'une République sans cimetière est une République décapitée, parce que la famille joue un rôle central, et avec le culte des ancêtres, c'était créer une continuité historique au sein de la République. Mais il faut voir aussi qu'à cette époque, après l'atome, il y a eu l'électron, et on s'est aperçu que cette espèce d'univers fini qu'on croyait bien connaître, on a des nouveaux univers perceptifs mis à disposition par la technique, et la découverte de l'inconscient, cette part sombre de nous-mêmes, et de là, les premières spéculations, ce qu'on appelle parapsychologie, étaient la psychologie à la fin du 19e siècle. Et donc, pour en revenir sur cet artiste, voilà, l'idée, c'est qu'il y a toujours ces ondes électromagnétiques, toutes ces sphères, ces voies qui nous traversent. On a vraiment une sphère éthérique qui est peuplée de créatures électromagnétiques. Et donc cet artiste qu'on avait invité faisait partie d'une série d'expositions qu'on avait dédiées à la lumière artificielle. Car comme je disais au début, la lumière en art, au début on a cherché à la reproduire, on l'a utilisée, et puis avec l'avènement de la lumière artificielle, plutôt que d'essayer de la copier, les artistes se sont mis à l'utiliser directement. Et on a invité cet artiste parce qu'on était un peu rattrapé par l'actualité, puisque on est en train de changer toutes les ampoules à filaments sont en train de disparaître, les tubes fluorescents sont en train de disparaître au profit des LED, de l'éclairage LED ou économie d'énergie. Et c'est un changement, en fait, au bout du compte, c'est quelque chose qui a l'air de quotidien et d'assez, on va dire, je dirais bénin, mais au bout du compte, c'est notre perception de la nuit qui va être changée, parce que ce qu'on appelle lumière blanche, en fait, elle n'est jamais totalement blanche, elle est blanche en comparaison avec d'autres types de lumière. Mais les bonnes vieilles ampoules à filaments, on a l'impression que c'est un éclairage très jaune si on passe à un éclairage avec du tube fluorescent, surtout ceux qui sont dans les traits bleus. On va avoir une lumière très blanche, et au bout du compte, notre perception de la lumière blanche artificielle, elle est jamais blanche, elle va changer au fur et à mesure. Du coup, on a invité un groupe d'artistes autrichiens qui s'appelle Reporg, constitué de trois artistes. Alors qui eux sont des artistes qui travaillent les nouveaux médias et aussi le son. Ils ont créé une installation qui s'appelle 8 bits, qui matérialise le code fondamental en informatique, le code de 8 bits. Alors maintenant on est passé aux 64 bits, je pense, on n'est pas plus loin encore. Donc le 8 bits, c'est une chaîne de 0 et de 1 qui permettent à l'ordinateur de travailler. Donc il y a 256 possibilités en 8 bits. Donc c'est pour ça qu'on a grandi avec la puissance des machines, plus de calcul en 64 bits. Et ils ont mis au point une installation qui matérialise ce code, mais qui le matérialise imparfaitement. Je vais vous faire voir un extrait. Donc vous allez voir, il y a 8 tubes fluorescents qui sont suspendus, pilotés par un ordinateur, qui envoient les 256 possibilités du code 8 bits à une carte relais. Et donc quand c'est 0, il n'y a pas d'électricité, et quand c'est 1, électricité. Aussi simple que ça. L'idée des artistes, c'était de confronter le monde digital et notre monde, le monde analogique. L'idée, c'est de. Donc, les tubes fluorescents, comme on l'a vu là à la fin, à 255 normalement, c'est un partout, donc tous les tubes auraient dû être allumés. Mais les tubes fluorescents sont équipés d'un starter qui envoie du courant pour activer le tube fluorescent. Et donc il y a toujours un temps de, c'est jamais un tube fluorescent, c'est jamais 1 ou 0. Il y a toujours une sorte d'entre-deux, et c'est cette espèce d'entre-deux qui n'existe pas dans le digital. Et l'intérêt là, c'est cette confrontation, parce qu'on va envoyer toujours le même code, et au bout du compte, on aura toujours une part d'aléatoire. Il y a toujours ce entre 0 et 1, qui s'appelle en informatique un glitch, c'est un problème de courant, c'est une erreur. Et là, ils utilisent ce qu'on appelle l'esthétique de l'échec. C'est-à-dire qu'à partir de l'erreur, on va essayer d'être créatif. Donc, c'est quelqu'un qui s'appelle Kim Kaskon qui a créé ce terme esthétique de l'échec, qui s'applique en fait à ce qu'on appelait du coup la musique glitch, faite d'erreurs, des gens qui se sont mis à utiliser les platines CD, à rayer des disques ou à mettre des points dessus pour produire de l'inattendu. Sachant que sur un CD, en fait, vous avez plusieurs fois la même piste sonore, plus une autre couche où il y a des informations qui permettent de guider le laser sur les différentes pistes. Et si on réussit à altérer correctement, alors c'est dur parce que quand on altère un CD, ça marche et parfois ça marche plus, dans la plupart des cas. On découvre qu'en fait, il y a des informations et ce laser se met à se promener, créant des particules de son. Et donc c'est des sons qui ne sont pas normalement prévus dans l'expérience musicale vantée par par ceux qui ont inventé tous ces appareils de reproduction du son. Et ce qui court là, c'est quel est l'intérêt d'avoir cette pureté qu'on a vantée avec l'arrivée du digital? Quel est l'intérêt d'un monde pur qui peut toujours se reproduire à l'identique parfaitement, sans accident ou tout ce calcul? Durant la même exposition, on a présenté cet artiste allemand qui s'appelle Tilman Künzel, qui est assez représentatif de ce qu'on appelle le Klangkunst. Alors c'est l'équivalent en allemand de Soundart, mais ça ne veut pas dire exactement la même chose. Il y a une génération d'artistes qui est née entre 49 et 59 en Allemagne, donc il y a des gens comme Rolf Julius, Christina Kubisch, Hans-Peter Kühn. Ce sont des artistes allemands et qui sont très vite intéressés à la lumière, au son, qui travaillent conjointement les deux pour créer des univers synesthésiques. On fait toujours la différence entre les arts visuels, art de l'espace, et la musique, art du temps. Et le Klangkunst s'intéresse à l'imbrication des deux et à travailler sur l'ouïe et la vue. Alors ce lustre à pendeloque qui repose au sol, tous les sons qu'on a entendus en fait sont générés par quasiment le même dispositif que les tubes fluorescents qu'on a vu en bas. C'est des starters dans lesquels passe en permanence du courant et qui sont amplifiés. Donc c'est des lamelles métalliques qui se collent et qui se décollent. Et l'artiste avec cette œuvre, que je trouve vraiment très, très, très réussi, c'est qu'il réussit à nous faire entendre et voir des choses qui n'existent pas forcément. Avec le lustre qui est composé de pampilles, de verre, on a l'impression que c'est soit les lamelles des filaments, des ampoules qui font ce bruit, soit les pampilles de verre qui s'entrechoqueraient et qui produisent ces bruits cristallins. Il réussit à mettre en avant tous ces mécanismes de perception, la façon dont on reçoit, on collecte des informations et après on les analyse. Et dans cette analyse des informations sensorielles, la mémoire et également la psychologie jouent un grand rôle, puisqu'on interprète et on filtre les filtres, les données sont filtrées par le cerveau et interprétées. Et avec ce lustre, il correspond à ces matériaux qu'il compose, on a tout de suite l'impression que tous les visiteurs avaient l'impression que c'était les pampilles de verre qui produisaient ce bruit. Et ça provient de ce mécanisme que, donc, de synesthésie. Alors, on différencie différents types de synesthésie. Il y a la synesthésie pathologique, par exemple, qui peut résulter d'une crise d'épilepsie, c'est-à-dire que dans le traitement du cerveau, dans le traitement des données, va mélanger les données sensorielles. Alors, par exemple, il y a une qui est très connue, c'est au début du XXe siècle, quelqu'un qui a défrayé la chronique, c'est l'homme qui goûtait des formes, c'est-à-dire quelqu'un qui mangeait un bifteck qui disait triangle. Il avait, voilà, ces sensations. Et il y avait les synesthésies les plus connues, sont les relations son et couleur. Une note associée à une couleur qu'on retrouve dans la synesthésie artificielle, là, qui est poétique, comme voilà, par exemple le voyelle de Rimbaud, où il attribue à chaque lettre une couleur. Et ce qu'on appelle aussi l'audition colorée, c'est-à-dire qu'on a, on a choisi, voilà, on a dit, voilà, sur le sol, c'est une couleur bleue. Sur une autre note, ça va être telle couleur. Et il y avait quelqu'un qui s'appelait le Père Chastel qui a inventé un clavicolore. Donc, c'était un clavier assez élaboré. À chaque note, ça mettait en marche des lampes avec des filtres de couleurs. Et là où je pense que l'œuvre fonctionne bien, déjà, c'est qu'il utilise un objet qui peuple l'imaginaire, le lustre baroque, hein, qui renvoie tout de suite aussi bien à la merveille qu'à peut-être un univers de contes, de fables, ou en tout cas de merveilleux. Et en plus, le cristal, quand on dit le mot cristal ou verre, on a déjà en fait des phénomènes de perception synesthésique, c'est-à-dire que le verre, c'est froid, c'est le bruit cristallin, c'est l'eau, c'est la glace. Et à chaque fois qu'on parle d'une matière, on a différents types de mécanismes, différentes sensations qui se mettent en marche. Par exemple, pour rugueux, on peut avoir un toucher rugueux, un son rugueux, un objet rugueux à la vue. Et l'adjectif rugueux, en fait, est polysensoriel. Et donc là, on l'a vu avec les trois dispositifs, la lumière est jamais exactement la même. Et ici, avec le lustre, là, c'est une capacité à modifier l'espace de présentation par sa présence. Comme je disais au tout début, on peut utiliser le son pour modifier un espace. Alors, ce qu'on appelle l'acoustique active, qui est une fonction purement technique, par exemple. C'est-à-dire qu'avec des dispositifs de haut-parleurs, on peut neutraliser des sons ou changer l'acoustique d'une pièce. On utilise aussi on peut changer une perception comme un artiste qui s'appelle Ryu Ikeda a fait une installation. En fait, on avance dans un couloir et à un moment des sons très, très aigus sont diffusés et une lumière très blanche et on a une impression d'infini. Un autre artiste qui s'appelle André Gonçalves, un artiste portugais qui travaille beaucoup avec les nouveaux médias et sur les nouveaux médias. J'ai choisi de montrer cette œuvre parce qu'il utilise quasiment un dispositif technique similaire, puisque c'est ce qu'on entend encore, c'est des lamelles. Et quand le courant passe, elle se colle et elle se décolle. Ce qu'on voit, c'est des petits circuits imprimés qu'il a fabriqués. L'œuvre s'appelle Trigger Happy. Et en fait, chaque circuit imprimé contient les rires enregistrés d'un épisode d'une série télé américaine. Donc quand la lumière s'allume, les rires sont en marche dans la série télé. Quand la lumière s'éteint, il n'y a plus de rire. Donc il a regardé des séries télé de 1950 à 2009. Et il a commencé ce travail suite à découvrir un texte d'un philosophe qui s'appelle Zizek, hein, qui avait écrit sur Charles Douglas, qui est l'inventeur de la laughbox, la boîte à rire. Donc les rires en boîte, c'est ce qu'on utilisait donc au début, quand les émissions étaient enregistrées en public, pour motiver un petit peu le public ou pour qu'on est sûr qu'il se marre au bon moment, on déclenchait les rires et donc le public riait. Et au fur et à mesure, il a perfectionné sa LaughBox avec tout un tas de réactions différentes. Et ensuite, ça a été utilisé, bah, comme on le sait, dans les séries télé en post-production, où on a les rires enregistrés en permanence. Et donc, ce qui l'intéresse, il s'intéresse beaucoup à l'interactivité aussi. Et il se pose beaucoup de questions sur l'interactivité. Qu'est-ce que vraiment l'interactivité dans beaucoup d'œuvres d'art? Est-ce qu'on n'est pas juste un actionneur en fait dans une chaîne de. On va juste passer près d'un capteur, au bout du compte, la machine on va servir d'actionneur, d'espèce de bouton poussoir. Et plus largement sur ce qu'on appelle justement le côté sombre de l'interactivité, c'est l'interpassivité. Alors, c'est un terme qui, dans le sens, échappe assez régulièrement, parce que comment deux choses peuvent être passives et être en relation en même temps? Et c'est ce qu'explique Zizek en parlant de la boîte à rire de Douglas. L'exemple qui permet de comprendre ça, l'interpassivité, c'est quand on donne à une machine le soin de jouir de quelque chose à notre place. Par exemple, les séries télé, la télé rit, et en fait, on n'a même plus besoin de rire, parce que déjà, les rires sont prévus. Et donc c'est ça, on laisse aux machines, au bout du compte, la théorie, c'est qu'on laisse aux machines le fait de jouer à mes sentiments les plus intimes à notre place avec le rire. Et cette installation est assez marrante. Hein. Il ne connaissait pas un texte de Villiers-de-l'Isle-Adam, un auteur du 19e siècle, qui a écrit La machine à gloire. Qui est un texte où un savant invente une machine qui serait mise dans les théâtres et qui est la même, qui est en fait l'ancêtre de la Laughbox. Parce que ça déclenche, ça c'est une machine qui. Alors il y a des mains en bois qui sont cachées sous les sièges, des sortes de pilons qui tapent par terre pour que le public applaudisse à la fin du spectacle. Et en fait, ça s'appelle la machine à gloire, parce qu'il y avait une pratique au théâtre hein, qui s'appelait la claque, où on payait des gens dans le public pour applaudir ou avoir des réactions au cours du spectacle. Pour suite, voilà, s'il y a quatre personnes qui se mettent à applaudir dans le spectacle, et on était sûr qu'à la fin du spectacle, on pouvait avoir un peu plus de succès. Donc c'est assez étonnant comme la littérature à plusieurs reprises au 19e siècle a non pas, je dirais pas anticipé ce qui allait se passer après, mais a déjà su cristalliser en fait au moyen de la littérature anticipation ce qui était en germe ou les interrogations sur les nouveaux dispositifs techniques. Il est dans, très, très critique dans toutes ses nouvelles sur la technique. Par exemple, dans L'Ève Future, il met en scène un personnage qui s'appelle Edison. Et qui invente le premier Android, une sorte, c'est une femme parfaite mécanique qui fonctionne avec deux phonographes en or. Et c'est en fait quelqu'un qui lui commande cette machine, hein, parce qu'il est tombé amoureux d'une femme. Elle est très belle, mais en fait il la supporte pas. Enfin. Et du coup, Edison lui propose de faire une copie fidèle de cette femme, mais d'y mettre l'intelligence de la machine à l'intérieur pour répondre à ses souhaits. Cet artiste, du coup, fait partie des artistes sonores qui se sont intéressés à la perception des espaces. Donc ça, c'est une deuxième installation du même artiste. Elle s'appelle Resonant Object. Il s'est intéressé à un phénomène physique qui sont les fréquences naturelles de résonance. Donc le dispositif se compose de cinq sphères on voit que trois, mais cinq sphères de verre, à l'intérieur duquel se trouve un haut-parleur et des LED. Et chaque objet, en fait, un objet fermé, c'est pour comprendre, c'est plus simple. À un certain moment, en fait, quand on injecte des sons intérieurs, on arrive à faire rentrer une partie des matériaux en résonance. Par exemple, là, pour une sphère de verre qui est un tout petit volume, si on sortait le haut-parleur de la sphère de verre, on n'entendait quasiment rien. Et quand on le mettait à l'intérieur, d'un coup, le son se mettait à vraiment une ampleur assez grande. L'exemple aussi, visiblement, la chanson préférée qu'on a sous la douche, c'est celle qui fait entrer la douche en résonance. C'est assez, assez marrant. Ou l'autre exemple pour comprendre ce que c'est aussi, les soldats marchent pas au pas sur les ponts, parce qu'autrement, avec le rythme des pas, ça fait rentrer le pont en résonance, et c'est pour ça qu'ils se mettent à se tordre et jusqu'à la destruction. Donc je parlais tout à l'heure de la perception des espaces et de l'espace, et je vais vous lire un court extrait d'un texte de Bastien Gallet, il a dit ça, il en parle très bien, sur justement la diffusion du son en dehors de l'espace théorique de la partition ou du dispositif technique de la salle de concert. Bastien Gallet, donc, dans son introduction à un livre qui s'appelle « Le composé des étendues », dit « Un son qui retentit occupe un certain espace. Les limites de cet espace sont celles au-delà desquelles la perturbation qui traverse l'air en exerçant sur lui une pression qui se déplace continuellement cesse de progresser. Elles dépendent de la nature et de l'intensité de la source. Un son occupe l'espace dans lequel il se déplace jusqu'à ce qu'il s'épuise. Cet espace-là, l'espace qu'est le son s'épandant jusqu'à épuisement autour de sa source, nous l'appelons étendue. Cette étendue est théorique. Aucun son ne s'élance dans l'espace abstrait de sa propagation. Aucun son n'est seulement une étendue. C'est ce que nous voulons dire quand nous disons d'un son qu'il résonne. La résonance est le nom de ce que l'espace où le son propage ajoute à l'étendue de sa propagation. » Je pense qu'il résume assez bien une partie des intérêts des artistes sonores. C'est-à-dire qu'on s'est mis à tenir compte, au fur et à mesure, effectivement, que le son ne se diffuse pas d'un espace, une sorte d'espace pur et abstrait. Il rencontre des lieux et cette installation, si on prend dans un autre lieu, hein, beaucoup plus grand, elle a plus du tout les mêmes caractéristiques. Et donc on a vu que les sphères pulsent avec le son, par un procédé technique, en fait, il a choisi de coordonner le son et la lumière, par du transcodage, et donc les impulsions sonores sont transcrites sous forme d'impulsions électriques. Il voulait aussi évoquer, il y a une partie poétique aussi, évoquer le sac et le ressac de l'océan et les miroitements de la lumière à la surface de l'océan. Qu'on vient d'entendre, il y a André Gonçalves a mis au point aussi une version performance, on peut dire en fait concert, c'est un peu un terme consacré en art contemporain, dès que quelque chose de vivant, c'est une performance, mais je pense que c'est plutôt un concert. Et puis il y a aussi les artistes sonores, les artistes qui cherchent à se départir en fait beaucoup de la musique. Donc quand il se passe quelque chose sur une scène ou dans une galerie, c'est plutôt une performance. Mais bon, on va plutôt parler de concert. Et donc vous voyez là, c'est il a changé son dispositif, c'est des cubes de verre. Alors il travaille avec beaucoup il utilise du matériel produit en grande série. Ça vient de quelqu'un qui fournit beaucoup d'appartements en décoration. Et donc c'est le même dispositif et on lui a proposé de t'accompagner par une artiste qui s'appelle Tomoko Sauvage, une artiste japonaise qui vit à Paris et qui elle a des bols en porcelaine remplis d'eau et à l'intérieur des micros hydrophones et c'est le son des gouttes d'eau qui tombent dans ces bols en porcelaine qu'on entend et seuls les bols ont été pour le concert sont amplifiés. Le son produit par la grande service, il n'y a pas d'amplification, quoi. C'est vraiment le phénomène des fréquences naturelles de résonance qui donne un son aussi puissant. Du coup, pour terminer, je vais vous faire voir quelques. Alors, j'ai pas de vidéo, des images d'artistes allemandes qui s'appellent Christina Kubisch. Donc, elle fait partie de cette génération d'artistes allemands qui travaillent avec le son et la lumière. Elle a créé une installation sonore. Et donc, comme je disais, beaucoup d'artistes sonores sont intéressés aux lieux, mais plutôt tout ce qui était un trait, l'architecture, la phénoménologie. Et en fait, il y a très peu d'artistes qui prennent en compte la notion de lieu comme un endroit où il s'est passé, qui peut avoir une histoire où il s'est passé des choses. Donc le in situ souvent est plutôt tourné autour de la technique et parfois même plus rarement qu'est-ce qui fait la spécificité d'un lieu en dehors de ses caractéristiques techniques. Et là c'est une photo qui est à Cork dans North Main Street. C'est une ancienne église reconvertie en lieu d'art. Et c'était donc une photo qui date de 2005, où Cork était capitale culturelle européenne. Et donc Christina était invitée à produire une œuvre. Et en fait, elle était au musée municipal de Cork. Et il y a un tableau qui représente un combat des oiseaux. La légende en fait qui est liée à ce qui a inspiré ce tableau quand Cork s'est mis à s'étendre au XVIIe, des oiseaux sont réfugiés dans le dernier arbre qui restait quand ils ont construit le port et se sont battus contre les hommes pour sauvegarder cet arbre. Et du coup, elle a choisi de créer une installation sonore. En fait, elle a placé des pavillons dans l'arbre qui reproduisent qui font penser à des sons d'oiseaux. C'est des sons électroniques qu'elle a créés. Elle n'a pas enregistré les oiseaux. Et donc, c'est des sortes de pépiments électroniques. Et les pavillons marchent à énergie solaire. Donc, s'il fait beau, les oiseaux chantent. Et s'il se met à pleuvoir, les sons s'arrêtent. Donc c'est quelque chose qui se fait en art sonore qui se fait pas beaucoup, essayer de tenir compte du lieu comme quelque chose qui a vécu, qui viendra autre chose, qui est traversé par des flux divers et variés, qui donne aussi cette spécificité à un lieu.
En fait, je pense que je vais être assez succinct. Je vais vous présenter deux documents qui sont deux vidéos, qui sont toutes les deux issues et qui vont parler toutes les deux du même projet, un hein, même travail que j'ai réalisé, quand est-ce que je l'ai terminé l'année dernière, on va dire. C'est un travail qui a duré 2 ans, qui était surtout à l'invitation des Beaux-Arts de Nantes pour un programme de résidence. Donc je vais vous montrer la première vidéo qui est très courte, puisqu'elle dure 22 secondes. Et en même temps, elle fonctionne, enfin, elle a une espèce d'effet d'annonce. Je vais même la mettre en boucle et puis je vais parler un petit peu en même temps. Alors donc cette vidéo, elle fonctionne un petit peu dans une logique de relation entre l'événement et l'expérience. Ce projet, il s'appelle Mothership Union et il fait suite à un travail que j'avais réalisé un petit peu avant qui s'appelait The Intergalactic Afrofuturist Space Door, qui était en fait un travail robotique d'installation sonore avec deux bras robots qui font à peu près presque 3 mètres de hauteur quand ils se déplient. C'est des bras qu'on voit dans des publicités Citroën, par exemple, qui signent les voitures de la marque de Picasso. Ces deux bras ont été reprogrammés par des ingénieurs et en fait, ils vont déclencher... Merci, super. Donc, on a les deux bras robotiques qui venaient, en gros, à partir de partitions, de programmes, qui venaient déclencher sur deux synthétiseurs des séquences sonores qui avaient un accent un peu afrofuturiste. Ce projet-là, c'était un hommage direct, vraiment très très littéral, à un musicien afro-américain qui s'appelle Sun Ra, qui provient de la planète Saturne et qui va délivrer aux terriens et aux humains et aux peuples, entre autres afro-américains, un message pacifique. Moi, c'est un artiste qui m'intéresse énormément, qui a mis vraiment toute une série qui a réalisé énormément de disques avec cette liberté très décomplexée du jazz expérimental. C'est quelque chose auquel je me sens assez proche et j'avais envie de rendre un hommage à cet artiste. Et dans ce projet-là, qui se passe donc sur le territoire nantais, ce qui m'intéressait, c'était de prolonger cette recherche et cette expérience autour d'une potentielle, possible population extraterrestre qui débarquerait sur le territoire nantais. Donc vous avez ici une espèce de simulacre en même temps avec les accents un peu documentaires de caméras qui bougent, filmées un petit peu, parce qu'on va dire à l'arrache. Et donc on a ici une espèce de structure indéfinie, très mathématique, très réglementée, très programmatique, qui pourrait être cette civilisation extraterrestre. Ce qui m'intéressait, tout à l'heure tu parlais de relations au territoire et à l'architecture. Évidemment, ce projet-là s'intègre précisément déjà dans un espace, puisqu'il est contextualisé, c'est-à-dire que là on est sur le toit de l'école d'architecture de Nantes, qui est un lieu qui a ensuite été investi par une sculpture qu'on va voir dans la deuxième vidéo qui est plus documentaire, que je vais vous présenter après. Mais ce qui m'intéressait, c'était de filmer sur le toit de cette école quelque chose qui va avoir lieu. C'est-à-dire que cette sculpture, en tout cas cette forme que vous voyez à la fin, approximativement, on l'a réalisée de manière physique, tangible, un matériau. Et donc ce qui m'intéressait dans cette structure, à la fois c'était encore une fois un échange et une relation très particulière avec l'histoire de l'art, puisque ici il y a une référence très directe à un artiste que vous connaissez certainement qui s'appelle Sol LeWitt, qui a travaillé sur toute une logique de grammaire de forme, de cubes entrecoupés. Et si son approche conceptuelle m'intéresse beaucoup, c'est parce que je la trouve teintée d'humour, de quelque chose d'assez décomplexé, ce qui pourrait s'appliquer à la plupart de mes travaux. Et puis il y a une deuxième chose qui m'intéresse énormément, c'est que la ville de Nantes est une ville qui est très connue, très réputée pour avoir, historiquement parlant, été une zone triangulaire dans les échanges entre les États-Unis, l'Afrique et puis l'Europe, donc via Nantes, de déplacement d'esclaves. Et ce qui m'intéressait dans cette structure-là, c'était de partir sur une espèce d'échelle, c'est-à-dire quelque chose d'ultra-normé, sur des raisons absolument illogiques, apparemment illogiques, ce qui est les bateaux qui permettaient de transporter les esclaves et définit que les couchettes des individus devaient faire 40 cm à peine. Et donc on entreposait les gens sur avec des séparateurs de 40 cm en fait, c'était des couchettes. Moi ce qui m'intéressait, c'était évidemment de faire écho à cette histoire-là, cette histoire de l'esclavagisme, mais de le faire de manière fine, pas en premier plan, c'est-à-dire de pas du tout avoir un discours à la fois moralisateur ou en tout cas revenir sur une histoire avec cette idée que revenir sur quelque chose, c'est repenser l'histoire, la renégocier au vu de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui m'intéressait, c'était au contraire de placer tous ces éléments-là en filigrane et que ce soit aussi une sorte de cuisine interne qui me permette d'établir toute une série de règles et de définir un univers que je connais assez bien puisque je l'invente, et donc de rester dans une pratique d'artiste, c'est-à-dire de fabriquer un univers, de construire un monde. Et comme tu le faisais tout à l'heure en citant aussi le domaine de la science-fiction, d'inventer quelque chose, quoi. Même si ça part d'une certaine forme de réalité. C'est un petit peu dans la continuité de cette nouvelle qui s'appelle Le Maître du Haut-Château, dont l'auteur là m'échappe, alors que pourtant je suis un grand fanatique, qui s'appelle Philippe K. Dick. Merci. Donc c'est un petit peu dans une logique comme ça. Alors voilà, la première vidéo, elle est comme ça, elle dure vraiment très peu de temps. Et puis ensuite, la deuxième vidéo, c'est plutôt une vidéo qui a toujours des accents un petit peu fictionnels, mais qui est beaucoup plus documentaire, puisque cette fois, ça y est, l'événement a eu lieu, la sculpture a été placée donc sur ce bâtiment, l'école d'architecture à Nantes, qui est donc un bâtiment sur deux étages plus une terrasse. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai imaginé que finalement, cette communauté extraterrestre est absolument invisible, elle est juste sonore. Et elle se déplace dans l'espace, et on cohabite, nous, les spectateurs. Quand on se déplace dans ce bâtiment, on est entouré de ces formes, de ces comportements sonores. Donc les sons que vous allez entendre sont des transpositions, des traductions de ce que pourraient être ces individus extraterrestres. Les qualités sonores de ces sons-là m'ont intéressé au moment où je les ai produits, mais ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'était d'imaginer, de dessiner des comportements, en fait. Donc d'avoir un étage où ces extraterrestres sont un peu chétifs, un peu fragiles, peu aventureux. Au deuxième étage, ils commencent déjà un petit peu plus à se déployer dans l'espace. Et au troisième étage, sur la terrasse, sur laquelle donc j'ai filmé la petite vidéo introductive, au contraire, ils deviennent plus agressifs, plus avec un esprit presque colonial d'envahir la planète. Et puis, alors techniquement parlant, puisque c'est important, techniquement parlant, ce qui se passe, c'est que les spectateurs étaient invités à prendre un petit terminal, un petit ordinateur dans un sac, se munir d'un casque, et via un système qui s'appelle Sonde Delta, qui est développé par une association, une structure qui s'appelle MU, à l'initiative d'un compositeur qui s'appelle François de Chanfrault, qui a un petit peu développé ce projet-là, on est dans une spatialisation sonore extrêmement précise. C'est-à-dire que je vais avoir un son sur les chaises du premier rang, moi je me déplace avec mon casque, je les entends, si je tourne autour de la chaise, le son reste exactement précisément à sa position. Donc j'ai utilisé cette technologie-là. On a un petit peu reparamétré le sac pour qu'il y ait une esthétique un peu neutre. Et donc ce que vous voyez ici, c'est une sorte de visite par quelqu'un qui découvre cette installation. Je vais laisser la vidéo, comme elle dure à peu près 9 minutes. Et je vais arrêter de parler.
Et peut-être que tu peux éteindre les lumières.
S'il te plaît, merci.